C'est un guide touristique qui nous le décrit. Saviez-vous qu'il existe aux abords de la Balagne un petit village au style atypique, perché dans la montagne corse, entre paysages de rocailles déchiquetées et maquis verdoyants? Ce village surplombe la vallée de l'Ostrigoni. Bienvenue à Lama. Ajoutons ce matin, bienvenue au festival du film de Lama. Ce n'est pas très loin de Bastia, mais c'est dans les montagnes. Alors nos invités ont dû mettre plus d'une heure, j'imagine, pour arriver à France Bleu Fréquenza Mora, c'est ça? Bonjour Pierre Salvadori.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre dernier film ou prochain film, puisqu'il sort en octobre, s'appelle En liberté avec un point d'exclamation et il est projeté ce soir au Festival du film de Lama, festival dont le président est à côté de vous. Bonjour Jean-Louis Devez.
Bonjour.
C'est ça, vous avez mis un peu plus d'une heure pour venir jusqu'à Bastia?
Oui, à peu près.
Alors qu'à vol d'oiseau, ça paraît quand même pas très très loin, la Balagne. On va d'abord planter le décor avec vous. Lama, village de 160 habitants qui accueille pour l'occasion entre 8 et 9 000 personnes sur une semaine entière. Où installez-vous le public? Faites-nous rêver un peu.
Ah oui, je vais vous faire rêver parce que le village est réputé par la magie de sa projection, de ses projections sur les étoiles. En fait, on installe les spectateurs sur trois sites en soirée. Les projections débutant à 21h30. Le site principal s'appelle la piscine, puisqu'il se trouve auprès d'une piscine municipale. On peut y accueillir environ 700 personnes avec un écran absolument gigantesque, une qualité de projection effectuée par des spécialistes, notamment Jean-Baptiste Aignon, qui est le chef des projectionnistes de Cannes. Magie sous les étoiles, couleurs extraordinaires, son au point. Ça, c'est le site de la piscine, le site des grandes avant-premières. Nous avons également un site qui s'appelle L'Umbrille, qui est une petite placette au sein du village où l'on accueille à la fois les compétitions de court-métrage et les films d'auteurs. Et enfin, puisque nous avons été cités par Télérama comme un des festivals faisant le plus pour les enfants, nous avons un petit site.
C'est votre fait d'armes.
C'est notre fait d'armes. On est très heureux d'accueillir les enfants. D'ailleurs, cette année, on en a accueilli encore plus. Je parle du Mercat, après je vous parlerai de l'atelier des enfants. On a accueilli environ 70 enfants pour des animations. Oui, effectivement, il y a un jeune cinéaste qui, pendant une semaine, prend une douzaine d'enfants, fait un scénario, fait un film et nous le projetons en clôture.
Ah oui, d'accord, en une semaine. Donc des vrais, des machines, là, ça
ah envoie. Il les fait travailler, oui.
Le festival existe depuis 1994, ce sont des habitants du village qui en sont à l'initiative. 1994, ça commence à dater un peu, il fallait renouveler le matériel, il fallait se rééquiper. Vous avez lancé cette année une campagne de financement participatif, c'est parce que vous n'avez pas pu obtenir des financements par ailleurs? On dit souvent que la culture est le parent pauvre de la politique culturelle, la Corse est le parent pauvre de la politique culturelle française.
Je ne peux pas répondre à la question concernant la caractéristique de la Corse par rapport au continent et de la France en général. Nous, ce que je peux dire, c'est que nous sommes aidés par la collectivité territoriale. Notre but, c'est de démontrer aux collectivités, puisque maintenant il y a une collectivité unique, il n'y a plus de conseil départemental en Corse, que nous sommes capables d'organiser une manifestation, que nous sommes capables de montrer à un public nombreux des grands films. Et ça, c'est la preuve de notre dynamisme. Nous sommes aidés par les collectivités.
Mais c'est d'ailleurs pas du tout un point de vue parisien, et je m'en garderais bien que de dire que la Corse a longtemps été ce parent pauvre, parce que même la collectivité territoriale de Corse, présidée donc depuis 2 ans et demi par Gilles Simeoni, et donc qui est désormais unique, a fait ce constat dès 2016 que l'offre culturelle corse était concentrée sur le littoral, ou alors à Bastia ou à Ajaccio, et qu'elle restait dominée par la musique, et particulièrement la musique dite actuelle, et qu'il y avait donc quelque chose à faire et une place à faire au festival, même si le vôtre existe déjà depuis 1994.
C'est exact. D'ailleurs, la collectivité a édicté une charte après concertation avec les différents festivals, variés, comme vous l'avez souligné. Cette charte, on nous l'a présentée cette année à Corté. C'est en fait une charte d'engagement réciproque, la collectivité s'engageant à soutenir les associations culturelles, bien évidemment, pas à certaines conditions. Je ne pourrais pas le terme de condition, mais sous certaines auspices.
En tout cas, il n'y a pas la condition de recevoir des artistes corses. C'est pas parce que les nationalistes sont à la tête de la collectivité corse que vous avez ça dans votre cahier des charges. Pas du tout.
Non, pas du tout. Notre ambition, c'était à la fois de continuer à présenter au public de grandes avant-premières, des films d'auteurs qui ne verront peut-être pas près de chez eux, et d'autre part, de devenir la vitrine de la production cinématographique corse, qui depuis de nombreuses années s'est nettement améliorée et est devenue très bonne en quantité et en qualité.
Par exemple,
nous ne projetons que des films de qualité. Ça,
alors,
c'est un grand principe.
Par exemple, ce cinéma corse, parce qu'on va en venir progressivement à Pierre Salvadori, qu'on entendra dans quelques instants, mais ce cinéma corse que vous voulez défendre, ce cinéma de qualité, lequel est-il ? Vous avez bien parlé de cinéma corse ou j'ai mal compris ?
Ah, j'ai parlé de cinéma corse, oui, bien sûr.
Alors ?
Alors, auteur. Alors, le cinéma, nous défendons la production cinématographique corse par des courts-métrages, des moyens-métrages et des longs-métrages. Nous avons également, on n'a pas parlé au départ parce que c'était un peu court, des projections documentaires en journée. Donc, en fait, on essaye de défendre la production cinématographique sous tous les auspices que le cinéma peut fournir.
Juste un mot sur, on parlait de l'investissement de l'État dans la culture en Corse. C'est tout le propos de Robin Renucci qui a ouvert pas très loin de Lama d'ailleurs son propre théâtre. Lama, c'est un village de montagne dont on sait que l'hiver, il n'y a pas grand chose. Même les habitants quittent temporairement les montagnes pour Bastia. Est-ce que vous sentez des choses évoluer de ce côté-là ?
Les choses évoluent. Notre côté, nous cherchons à prolonger l'activité du festival pendant l'hiver, enfin pendant la saison, par des projections déjà que nous organisons depuis plusieurs années, toutes les 3 semaines, pour les habitants du village et les habitants des alentours. Et nous avons des accords avec la collectivité et avec la communauté des communes d'Île-Rousse-Balagne pour faire de l'éducation au cinéma aux enfants.
Voilà, et la charte dont vous parliez tout à l'heure, la charte des festivals de rayonnement territorial qui est le fruit de cette concertation menée en 2016, elle donne l'objectif d'une charte artistique exigeante. Est-ce que c'est vous qui vous occupez de la programmation du Festival du film de Lama ?
Alors, la programmation, oui, pardon, excusez-moi. La programmation du Festival de Lama est faite par une équipe de trois personnes qui vont notamment au Festival de Cannes, puisque le Festival de Cannes est un élément incontournable dans la programmation. Moi, je l'aide avec mes modestes moyens, je suis là, je gère un peu. Nous avons un coordonnateur, nous avons un salarié qui est le coordonnateur, et nous avons la chance d'avoir des amis qui vont à Cannes et qui nous conseillent.
Voilà, et donc le lien entre Cannes et Pierre Salvadori, c'est que son film En Liberté a reçu le prix de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes cette année. Il ne sort qu'à la rentrée en octobre, mais il sera donc en avant-première ce soir à Lama. Pierre Salvadori, pour rester quand même un petit peu, nous continuer sur la Corse, qu'est-ce que vos parents avaient de la Corse qu'ils ont quitté pour la Tunisie où vous êtes né ?
Oh, mes parents n'ont pas quitté la Corse pour la Tunisie, c'est bien, bien plus longue l'histoire. Mes parents, comme beaucoup de Corses, les Corses étaient souvent s'exilaient dans les colonies. À l'époque, mon père était très âgé, il est né en 1920, donc il a d'abord été, il s'est expatrié d'abord parce que c'était un pays, c'était pauvre, c'était une région très pauvre, donc il partait, il s'était souvent fonctionnaire et il partait s'exiler dans les colonies françaises. Et ensuite, mon père est rentré en France et il s'y est pas plus, et il est reparti en Corse où il est devenu agriculteur dans les années 80, quand j'étais assez jeune. Ils nous ont tous abandonnés à Paris, il est rentré en Corse. Donc mon père a très peu quitté la Corse finalement, il est vite rentré. Et ma mère avec lui, ma mère était jusqu'à ses études en Corse, et puis ensuite elle est restée un peu sur le continent, elle est rentrée avec mon père après en Corse.
Alors qu'est-ce qu'elle avait de méditerranéen ? Est-ce qu'elle est
qu'est-ce qu'ils avaient de Corse ?
Oui, de méditerranéen. Est-ce qu'elle était drôle ? Est-ce qu'elle est drôle ? comme vos films. Mais vous parlez parfois du sens de l'humour de votre mère.
Ah,
je voulais vous en faire parler.
Ah d'accord, c'est
oui.
Ça, d'accord. Et de mon père,
Et de votre
père. Je pense qu'ils avaient un humour typiquement corse. Oui, une espèce d'ironie douce, de recul sur eux-mêmes. Je peux pas dire ça autrement, d'ironie. Et puis une culture aussi qui est... Mon père m'emmenait beaucoup voir les vieilles comédies italiennes. Ma mère était plus férue de comédies américaines des années 50-60. Moi, j'ai vraiment grandi entre la comédie américaine, les grands classiques de la comédie américaine des années 50-60 et la comédie italienne des années 70, un peu plus politique, un peu plus... naturaliste, mais toujours avec cet humour. J'ai vraiment été très influencé par ça. Et puis par cet état d'esprit permanent qu'il y avait chez moi, autour de la table, et quand on recevait. C'est très corse, hein. Il y a toujours, si vous voulez, en Corse, une pointe d'humour dans les conversations, dans les échanges. C'est toujours un peu... Voilà, on appelle ça la magagne, on chambre un
la
peu.
La magagne, mais bien sûr, ce sens de l'humour et de la répartie que vous aimez tant partager avec nous dans vos films. En liberté, donc, c'est l'histoire d'une jeune inspectrice de police, Yvonne, campée par Adèle Haenel, qui découvre 2 ans après la mort de son mari, le capitaine Santi, qu'il n'était pas le héros que tout le monde croyait, et elle tente de l'expliquer à son fils.
Sixième G, collège François Villon.
Mariton, c'est toi, Santi?
Merde, Mariton, qu'est-ce que tu fous là?
Oh, putain, Santi, enfoiré.
Mais t'étais le premier de la classe, putain, t'étais le chouchou de Madame Pujol.
Ouais.
Jusqu'à ce que je me fasse virer à cause de toi. T'as dit que c'était moi qui avais foutu le feu en chimie alors que c'était Verrier. Hein? Pourquoi t'as fait ça? J'avais rien fait. Pourquoi?
Pour ciboule coco.
Hein? Oui, Verrier, il m'avait donné 6 boules coco pour que je te dénonce.
6 boules coco?
Je suis désolé, Mariton.
Il aurait pu être chirurgien.
Mais il n'est pas trop tard. T'as l'air de toucher ta bille en chimie. Je connais du monde chez Sanofi.
C'est vrai?
Oui. Tout le monde a droit à une seconde chance.
Vraiment?
Je te jure. Regarde ce que t'as fait de moi, Santi. Un monstre.
Oh, ça va. Bah, un peu de bien fini, on n'en parle plus.
J'étais innocent. T'as gâché ma vie, Santi.
Wow. Trop fort, ce papa.
Comment ça, trop fort? Théo, tu fais semblant de pas comprendre ou quoi?
Et tu fais semblant de pas comprendre, Théo? Bon, je sais pas si Pierre Salvadori, les auditeurs, ont tout compris sans l'image, mais racontez-nous ce qu'il se passe dans cet extrait.
Vous me faites transpirer c'est... dans les studios climatisés de France Inter.
De France Bleu, Fréquence Samora. On est entre eux. Alors, je ne sais pas si les références vous iront toutes, les deux, mais on est entre les tontons flingueurs et les cités de la peur, là.
On est dans une histoire qu'une mère raconte à son fils pour essayer de lui transmettre une part de vérité. C'est un film qui tourne beaucoup autour de ça, de l'importance du récit et de la fiction dans nos vies, de comment, à travers des histoires, on peut essayer de donner une part de vérité ou d'éduquer ou tout ce que vous voulez. Donc, mais c'est un film qui tourne beaucoup autour de ça. Oui, oui.
Et oui, elle se doit de lui expliquer, voilà.
Elle raconte des histoires au début du film. Elle raconte une histoire à son fils. Et elle lui parle de ce père glorieux et comme d'ailleurs l'a longtemps fait ma mère. C'est parti d'une remarque de ma mère. Les mères font les pères, elle m'a dit un jour. Et donc, et puis un jour, elle apprend la vérité sur cet homme et elle n'arrive plus à raconter la même histoire à cet enfant et elle essaye, en modifiant légèrement cette histoire, de lui dire qui était vraiment son père. D'ailleurs, c'est beaucoup autour de ça aussi, le film, hein, le poids des morts, la culpabilité, racheter un peu les fautes des autres. Et voilà, c'est ce qu'essaye de faire cette femme.
On retrouve dans En liberté ce qu'il scelle de vos comédies, Les apprentis après vous, Hors de prix, Dans la cour. Vos personnages n'ont pas des vies très drôles. L'une a perdu son mari, l'un son père. Un autre sort de prison après 8 ans, incarcéré après une erreur judiciaire. C'est difficile aussi pour sa compagne, Audrey Tautou. Et pourtant, tous nous font rire, en fait, tout le temps. On rit tout le temps. Et c'est votre travail, la mise en scène du rire. C'est difficile d'être exigeant avec le rire.
Je sais pas, si vous voulez, c'est un penchant. J'ai une tendance à raconter les histoires comme ça, avec ce rythme, ce décalage, cette ironie, ce dont on parlait au début de l'entretien. Et puis, pour que ce soit efficace, il faut que les personnages soient confrontés à des conflits forts et puissants. Sinon, on tombe vite dans quelque chose qui m'intéresse moins, qui est le second degré, la distanciation. Je crois beaucoup au premier degré et à la fiction. Et j'aime la comédie pour son rythme et sa poésie, si vous voulez. Donc ensuite, je peux pas vous dire oui, je suis très exigeant avec le rire et je suis celui. Mais en tout cas, c'est difficile, ça demande beaucoup de rigueur et je pense que il faut pas faire n'importe quoi pour faire rire, comme il faut pas faire n'importe quoi pour faire pleurer. Vous savez, le cinéma, il a une une puissance incroyable et on peut facilement émouvoir, facilement faire rire. Vous êtes avec des gens qui sont face à un écran immense. Il y a une identification qui est forte. Donc il faut faire très attention à la façon dont on provoque une émotion, quelle qu'elle soit.
Mais vous aimez quand même le comique de situation, les clowns, mm-hmm. Louis de Funès. Vous avez mm-hmm. aimé ça ou pas?
Je suis plus... Enfin, moi, j'aime les auteurs. Hein. Vous savez, j'aime les réalisateurs. J'adore les acteurs, mais j'emploie très rarement des acteurs comiques. Je peux trouver une folie chez De Funès, un art de l'improvisation qui finit par m'émouvoir. Mais j'aime quand c'est plus rigoureux dans le récit. Et au fond, j'ai toujours peur. J'ai jamais pris d'acteurs comiques, finalement, réellement comiques, parce que j'ai toujours peur qu'ils vampirisent le film de l'intérieur et qu'ils imposent leur ton et leur. Ce qui peut être intéressant. Je pense que la grande sagesse de certains réalisateurs, ça a été de prendre des acteurs comme ça. Mais moi, je me méfie un petit peu de ça.
Mais oui, vous aimez les auteurs, les réalisateurs. Parmi mm-hmm. ceux qui vous ont marqué, que vous citez souvent, c'est Blake Edwards et ses personnages masculins, très angoissés, voire névrosés. L'absurde mm-hmm. lent. Vous n'êtes pas dans l'absurde lent, d'ailleurs, dans En Liberté. On n'est pas. Le rythme est très enlevé, la mise en scène est très soignée. Qu'est-ce que vous avez gardé de Blake Edwards pour votre cinéma?
Au fond, on peut pas dire que je garde quelque chose de Blake Edwards. Vous savez, on a tous c'est grandi vrai. En aimant certains cinéastes. Blake Edwards m'a souvent touché parce que je me suis rendu compte que ses personnages étaient assez douloureux et j'ai toujours trouvé qu'il y avait chez lui quelque chose de très digne, comme chez Lubitsch d'ailleurs. Ce sont des personnages qui ont beaucoup de tenue dans l'adversité. Ça m'a toujours beaucoup aidé et ému. Il y a une certaine poésie aussi chez Blake Edwards, une certaine trivialité. Il n'est pas vulgaire, mais parfois il est très mal élevé. Mais il y a quelque chose de tonique, de subversif. Et après, vous savez, les influences, je me méfie beaucoup de ça. J'essaye pas de transposer une façon de faire dans mes films à moi. En revanche, je peux aimer leur rigueur, ce dont on parlait tout à l'heure, et leur et le fait que ce soit des auteurs, c'est-à-dire qu'on finisse par retrouver régulièrement un ton, voilà, ça veut dire qu'ils étaient habités par une croyance et une certaine idée du cinéma, et qu'elle me correspond, et que quand je vois un film de Blake Edwards, je peux rapidement le reconnaître. Ce que j'aime peut-être chez Blake Edwards, c'est les ruptures de ton. Il y a un film qui s'appelle Skin Deep, qui veut dire nature profonde, et qui a été traduit par L'amour est une grande aventure, par les brillants distributeurs qui l'ont distribué, et où on voit des ruptures de ton incroyables. Il y a une scène presque de cartoon, avec des préservatifs fluorescents qui se déplacent la nuit dans une chambre noire, et donc on pourrait presque se dire qu'il a poussé le slapstick jusqu'au cartoon, et la scène d'après, c'est une séquence d'enterrement, c'est l'agent du personnage principal qui s'est suicidé. Donc vous voyez, il y a une espèce de cohabitation entre le tragique et l'absurde que je trouve extrêmement touchante, belle et édifiante, quoi. Ça me plaît énormément.
Mais il m'avait dit fin de journée, il m'avait dit 18h. C'est pas possible, Antoine. Non, mais Antoine, mais pourquoi tu m'as pas appelé?
J'avais plus de barré.
Mais pourquoi t'ont laissé sortir plus tôt?
Je sais pas, ils ont dû avoir des remords. C'est bien, non?
Mais pourquoi ils m'ont pas dit? Mais moi, je voulais arriver un peu avant, je voulais t'attendre.
Je suis désolé.
Ah non. Ah non, dis pas ça, mon rôle. Partout, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est juste, je voulais être prête que tout soit parfait. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment-là. Je voulais, je sais pas, te guetter, t'attendre, te voir arriver. Je suis tellement surprise que ça prend sur ma joie, ça prend sur tout. C'est pas vrai, Sarah, t'es affreux.
Tu sens bon?
Mais non, je sens la sueur. Oh, tu veux bien recommencer?
Le jour où Antoine Pio Marmaille sort de prison et rentre chez lui, sa femme Audrey Tautou l'attend. Pierre Salvadori, voilà une scène qui aurait pu être difficile, qui aurait pu être intense, dramatique. Elle est belle, elle est poétique et elle nous fait rire, elle nous fait sourire, cette scène-là. Et souvent, le cinéma français n'a peut-être pas trop laissé le choix entre le film social un peu difficile, pur et dur, ou la grosse comédie. Et vous êtes dans un juste milieu. Comment le qualifier? Évidemment, je ne vous demanderai pas à vous de dire si vous êtes dans le juste milieu, mais comment vous en parleriez-vous de cet équilibre-là que vous cherchez à trouver?
Moi, j'ai un amour du cinéma et une croyance dans le cinéma, dans la fiction. J'ai un amour de ça incroyable. Et si vous voulez, j'essaye de... C'est difficile, je réfléchis pas comme ça, je me dis pas il faut éviter ci, il faut éviter ça. J'adore le mélange des genres, j'ai découvert ça avec Howard Hawks et c'est quelque chose qui me touche beaucoup au cinéma, l'idée. Et puis c'est peut-être une forme de timidité ou de gêne, c'est-à-dire que je suis incapable de pousser trop loin l'émotion, je suis incapable de filmer des scènes d'amour. Donc j'essaye toujours, si vous voulez, presque par nature, de mélanger les genres. En même temps, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et puis après, il y a aussi une part de réflexion. Ce film, comme je vous le disais tout à l'heure, parle beaucoup de mon amour de la fiction et du cinéma. Ça, c'est typiquement une déclaration d'amour à ça, c'est-à-dire que c'est une scène où Antoine sort de prison, et arrive chez sa femme, la retrouve, et elle est surprise, elle pensait le voir arriver un peu plus tard, et la surprise prend le pas sur l'émotion, elle voulait être prête, elle voulait se préparer à ce retour, et elle lui demande de rejouer cette scène, elle lui demande de ressortir et de revenir. Et ça, c'est une façon pour moi de dire que la fiction est parfois aussi forte, si ce n'est plus forte que le réel, ou plus belle, c'est-à-dire que malgré tout, il va ressortir, revenir, ils vont réussir à recréer une émotion, et c'est aussi une allusion directe à ce qu'est la fabrication d'un film, c'est-à-dire qu'elle lui fait faire une deuxième prise, elle lui dit reviens, et elle va lui dire de revenir encore une troisième fois. Après, il faut trouver l'équilibre pour pas ennuyer le spectateur. C'est-à-dire qu'il faut réussir à nourrir ça suffisamment de dialogues qui soient évocateurs et beaux. J'ai jamais eu autant confiance dans les mots qu'avec ce film. J'ai jamais été aussi loin. J'ai pas eu peur du dialogue, alors qu'avant, j'avais un petit peu peur de ça. J'ai essayé de fuir un peu plus encore une forme de naturalisme et d'oser parfois ça, des scènes presque, oui, un petit peu... un peu poétique, avec des échanges que si j'avais pu, je les aurais fait en vers, je voulais que je vous dise. J'ai presque eu la tentation parfois de le faire.
Mais vous aimez la poésie, vous en lisez d'ailleurs beaucoup.
Oui. Oui, oui, j'aime ça. Et j'aime l'évocation. Je trouve ça sublime. Je suis ravi d'ailleurs de projeter, pour en revenir un tout petit peu à la main, mon film là-bas. Parce que le film et la projection retrouvent une dimension presque sacrée. Quand vous voyez un film à la main, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, mais il y a quelque chose d'assez mystique. On est entouré de montagnes bleues, comme ces montagnes bleues corses magnifiques de chez nous. Et puis il y a l'écran au centre, c'est comme un cirque. Donc il y a le côté théâtral que moi j'assume beaucoup aussi dans mes histoires. Et ça donne je suis très très pressé de voir le film là-bas.
Ouais, et il y a le public, vous allez guetter sa réaction, parce que ça n'intéresse pas tous les cinéastes d'ailleurs de savoir ce que le public en pensera, mais vous allez regarder les visages.
Je suis obsédé par ça, ouais. Oui. Comme dans un film de Lubitsch qui s'appelle Serenade à trois, où à un moment l'auteur rentre dans la salle de théâtre pour observer la réaction des spectateurs, et dès qu'il y en a un qui sourit pas, il est mal à l'aise. Mais moi, oui, beaucoup, c'est très important. Mais je fais des films pour le public, pas pour les entrées. C'est très différent. Ouais.
Ernst Lubitsch, dont vous avez l'habitude de dire qu'il est le plus grand psychanalyste de l'histoire. Eh bien, nous, sur France Culture, c'est à Freud qu'on consacre une grande traversée toute la semaine. Et ça commence dans un instant à 9h06 après le journal de 9h. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous, d'être venus ce matin dans les studios de France Culture, enfin de France Bleu à Fréquence Amora. Il faut patienter encore un peu pour regarder En Liberté, dont la sortie est prévue pour octobre, sauf pour les chanceux qui sont en Haute-Corse et qui peuvent venir ce soir au Festival du film de Lama. La projection est à 21h30 et sera suivie de Béatrice de Rinatou Frassati. Donc le Festival du film de Lama, c'est jusqu'à vendredi soir. Merci donc Jean-Louis Devez, président, d'avoir été avec nous, ainsi qu'à l'équipe de France Bleu.